Alors, vous êtes sur Radio Accor dans l'émission Rencontre. Cette émission sur les chemins de Compostelle est réalisée pour le compte de Radio Accor par l'association Les Amis de Saint-Jacques en Vienne.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de
aujourd'hui, Jean-Louis, je reçois Joël. Il va nous parler des chemins qu'il a parcourus vers Compostelle et qu'il a parcourus par épisode. Bonjour Joël.
Bonjour Jean-Louis.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire la genèse de votre décision ? Enfin, qu'est-ce qui vous a amené à partir sur les chemins de Compostelle ?
Je me suis intéressé aux chemins de Compostelle en fait à partir de l'histoire. En lisant l'histoire des pèlerins du Moyen-Âge, je me suis toujours posé la question comment ils faisaient pour faire des si grands voyages. Et puis un beau jour, à propos d'un article, où je crois, sans me souvenir, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui le refaisaient. Donc je me suis intéressé à ça, et à partir de là, bah, j'ai essayé.
Alors je sais que vous êtes parti seul, vous aviez envie. Comment vous êtes parti la première fois ? Qu'est-ce qui vous a amené à dire, voilà, cette fois-ci, je pars ?
Bah, à un moment donné, il a bien fallu, comme j'ai dit tout à l'heure, j'essaye. Donc, je me suis un peu renseigné, pas assez d'ailleurs, et je suis parti un été de 1997, en août 97, et j'étais du Puy-en-Velay, parce que c'était ça que j'avais trouvé, où il y avait le plus de renseignements. Et je suis parti du Puy-en-Velay et je me suis arrêté à Cachard. Donc j'ai fait dans 280-300 km à peu près.
Voilà. Donc ça, c'était la première réponse à cette envie.
C'était la découverte.
La découverte.
La découverte. Alors je me suis aperçu que j'étais trop chargé, que j'étais pas équipé. Et c'était là aussi où j'ai trouvé du partage, puisque dès les premières étapes, j'avais rien à manger, par exemple. Et il y a des gens qui m'ont donné à manger. Déjà ça.
Rien à manger parce que vous saviez pas.
Parce que je savais pas qu'il fallait emmener à manger, quoi, c'est tout. dans les refuges, on trouve rien, quoi. Bon, et donc c'était un village, c'était à Montbonnet, je me souviens. Il y avait rien, il y avait pas d'épicerie, il y avait rien.
Donc il y a quelqu'un qui vous a aidé pour. Et il y avait pas de refuge à l'époque,
Si, il y avait un refuge.
Il y avait déjà un refuge.
Il y avait un refuge, mais il y avait rien d'autre, quoi. Donc il fallait amener ça de quoi manger, ce qui est normal d'ailleurs. Quand on connaît, il y a pas de problème.
C'est-à-dire qu'en 97, on n'avait pas toute la littérature qu'on trouve aujourd'hui.
Voilà. Il y avait quelques documents quand même. Sur le chemin du Puy, ça commençait à exister.
Et il y avait déjà quelques pèlerins à cette date-là, en 97, le jour où vous êtes parti.
Oh, je suis parti. Oui, on était à Montbonnet, on devait être 6 ou 7 à peu près.
Ah oui, quand même.
Et puis après, c'était en août, donc ça a été à peu près le rythme qu'on retrouvait partout, en France.
Donc alors ce chemin par épisode, donc première opération en 97, une dizaine de jours, un peu plus, aller du Puy à Cajard. Voilà, alors là vous rentrez.
Je suis rentré, il fallait que je rentre parce que pour des raisons professionnelles, familiales, etc. Je ne pouvais pas faire ça d'un seul coup, donc après j'ai eu plus qu'une idée, c'était de continuer. Donc en novembre je suis reparti une semaine. J'ai fait Cajard-Montcuq, accompagné de ma femme d'ailleurs, et l'un de mes fils. C'était une semaine, mais l'expérience me montre qu'une semaine, c'est un peu court. C'est-à-dire qu'on commence à être en jambes quand il faut s'arrêter.
Voilà.
Donc après, j'ai fait des périodes d'une semaine, mais j'ai essayé d'aller au moins sur deux à trois semaines.
En fait. Alors, reparlons de cette semaine quand même. Disons que cette semaine-là, en novembre, il ne faisait pas trop froid, c'était pas trop humide.
On a eu un soleil extraordinaire.
D'accord.
Ouais. il fait froid, mais en marchant, on n'a pas froid, couvert, donc ça ne se pose pas de problème. D'ailleurs, les chemins que j'ai faits, j'en ai fait une bonne partie en hiver, soit en novembre, soit en février-mars. Et j'ai eu des journées difficiles comme tout le monde, mais ça n'a jamais arrêté, le froid n'a jamais arrêté.
Et pour aller sur ce chemin, dans cette semaine-là, peut-être la première semaine, le chemin était bien balisé, dès 97-98, il n'y a pas de, le problème, parce qu'on sait qu'aujourd'hui...
Oui, sur le chemin du puits, je pense que c'était un des mieux balisés à l'époque. Et c'était... à chaque fois que je me suis trompé, c'était de ma faute. Hein, c'est clair, c'est la fatigue ou le manque d'attention, mais non, le chemin était correctement balisé.
D'accord, donc on peut dire qu'en 97, il y a deux épisodes, le puits Cajar et Cajar-Mancuc.
Voilà.
Voilà ce qui a été fait en 97. Alors, la suite.
Par la suite, j'ai repris l'année suivante, en 98. J'ai fait mon cul quand je fais Nartès de Béarn. Je vais regarder ça. Nartès de Béarn, voilà.
Et là, vous l'avez fait seul ou...
Là, je l'ai fait seul, effectivement, en mars-avril.
En mars-avril. Ah, et c'était pas. En mars-avril, ça allait, il n'y a pas de neige.
Non. J'ai toujours trouvé des temps assez corrects.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire
Le problème en dehors de saison comme ça, c'était des fois de trouver des hébergements parce qu'il y a un certain nombre de refuges qui étaient fermés. Ça, c'est toujours le... Disons que c'est le problème quand on redémarre, c'est d'apprendre un peu... de rentrer dans le chemin pour savoir ce qui est ouvert et fermé. Bon, mais au bout de 3 ou 4 jours, c'est pareil, on le sait et on n'a plus de problème.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on
On adapte...
C'est-à-dire qu'on sait la veille, si le refuge après...
Voilà, s'il faut faire une grande étape pour sauter un refuge ou... Voilà.
Et combien de temps il a fallu pour aller de Mancuc à Arthès de Béarn?
J'ai mis du 25 mars au 3 avril, il faut faire le calcul, mais c'est 280 km, c'est à peu près... Pareil, une dizaine de jours.
D'accord.
Ouais. Bon, c'est à peu près le rythme.
Voilà. Alors, en 98, est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes?
En 98, octobre-novembre, je suis reparti d'Arthès de Béarn jusqu'au Puente Larenea.
Ah, donc là, déjà le saut par-dessus les Pyrénées.
Le choc des Pyrénées, oui. D'abord, parce que c'est... Moi, ça m'a vraiment impressionné de voir cette montagne dont les sommets étaient enneigés à ce moment-là.
Oui.
Donc, on va dire qu'il va falloir grimper là-haut. C'est vrai que c'est impressionnant.
Oui.
Bon, par contre... et puis, là, il y a l'étape de Roncevaux avec tout...
Ça n'a pas été trop dur de monter ?
Très dur, très dur. Enfin, pour moi, je l'ai passé plusieurs fois. Et c'est vraiment l'étape la plus difficile physiquement.
Mais c'est peut-être aussi parce que de Arthès de Béarn, ça ne faisait pas une trop longue période pour...
Non, parce que vaut mieux, enfin à mon avis, vaut mieux avoir quelques kilomètres dans les jambes.
Oui, c'est ça, voilà. Oui, mais c'était peut-être pas assez. Enfin, d'Arthès, ça faisait quand même pas mal.
Ça allait. Ça allait, enfin, ça faisait 3-4 jours de marche, donc c'était bon. Et c'est vrai que, par contre, à l'époque, pour le passage de Roncevaux, il n'y avait pas de refuge intermédiaire, là, le nouveau refuge qui est...
Oui.
Passé, donc on partait de...
Oui, parce que aujourd'hui, il y a Honto et Orisson, ce qui n'existait pas à l'époque.
Voilà. Donc, il fallait tout faire.
Tout faire. Donc, on partait de Saint-Jean-Pied-de-Port pour aller jusqu'à Roncevaux.
Voilà.
Et à Roncevaux, là, vous avez dormi là. Le refuge existait déjà.
Ah oui, le refuge, il existait depuis longtemps, avec toute son organisation. Mais bon, avec des moments aussi super. Enfin, bon, c'est vrai que la messe des pèlerins à Roncevaux, c'est quelque chose qui... Enfin, qui, moi, m'a touché, quoi.
Alors, après, on continue le chemin jusqu'à Puente Larenea, en passant par Pamplona.
Voilà.
Et donc là, cette séquence-là, cet épisode, ça a duré combien de temps aussi? Une dizaine de jours?
C'est pareil, oui, c'est sur 2 semaines.
C'est toujours par séquence de 10 jours, grosso modo.
Voilà, 2 semaines, sauf la dernière séquence, puisqu'après, je suis parti de...
Alors ça, c'était les deux épisodes de 98. Ouais. Et alors, donc le chemin s'est terminé en quelle année? En 99?
99.
Oui. Alors en 99, comment ça s'est passé?
En 99, là, je suis parti... Ah non, en 98, j'ai été jusque Burgos.
À Burgos.
Pardon, oui, je me trompe là.
Ah oui.
J'ai rejoint Burgos là, quand même.
Ah oui, donc c'était quand même une étape un peu plus longue. Hein. Donc là, ça devait faire plus que 10 jours quand même pour aller d'Arthès de Béarn.
Ça fait 380, enfin, un peu plus de 3, dans les 380 km. Oui, j'ai mis une semaine de plus.
Ouais. Ah, c'est ça, voilà. D'accord. Oui. Ah, ouais. Ça me paraît plus réaliste.
Oui, non, mais c'était.
Voilà.
les souvenirs.
Donc on est, vous êtes arrivé à Burgos en 98.
Ouais.
Et alors, comment ça se passe, la dernière étape, ou les dernières étapes?
La dernière étape, puisque dernière étape. Les 492, là, les près de 500 kilomètres, derniers kilomètres, je les ai faits entre le 26 février et le 18 mars. Voilà.
26 février et 18 mars. Voilà. Donc là, on est en plein hiver quand même. Enfin, oui.
Oui. Là, s'il y a eu des passages un peu difficiles. Il y a eu la Meseta, c'est pas difficile, mais j'avais le vent dans le nez et le vent glacial, mais bien couvert, ça allait. Sauf que le seul problème, c'est qu'il fallait pas s'arrêter. Donc, même pour le repas de midi, c'était vite fait de oui. boules, sandwich, oui. sans s'arrêter.
Mais sinon, on refroidit donc, trop vite, quoi.
Voilà. Des refuges qui étaient pour la plupart ouverts, mais pas certains pas chauffés. Ou des douches froides. Donc les douches froides, par quand il fait 3 degrés dans le refuge, la douche est rapide, pour dire que des fois, il n'y en a pas eu. Mais enfin, on ne suit pas beaucoup non plus.
C'est vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup.
Et puis, il y a eu quelques passages dans la neige, le Cebrero dans la neige, la Cruz de Ferro, sous la neige, là.
Ah, sous la neige, il neigeait.
Il neigeait.
Et on arrivait quand même à marcher, à trouver son chemin.
Ben oui, parce que la route avait été ouverte quelques jours avant, donc on était vraiment en montagne, et la route était tracée, donc on marche sur une... Enfin, moi, j'ai marché sur une route, donc il n'y avait personne. Bon, c'est un peu angoissant le soir, quand la nuit tombe et qu'on n'est pas encore arrivé à l'étape, mais autrement...
Oui, parce que les journées sont courtes.
Les journées sont courtes.
Même si on part aux premières lueurs de l'aube, il est déjà tard.
Surtout quand il neige.
Et là, il y a peu de rencontres sûrement à cette époque-là de l'année, peu de pèlerins sur le chemin.
Peu de rencontres, mais pas le désert quand même.
Pas le désert.
Ouais, parce que bon, ça m'arrivait souvent de dormir tout seul, mais je vois au Cebrero, il y a un pèlerin espagnol qui est arrivé. Bon, il y a toujours deux ou trois, un ou deux ou trois. Puis des fois, personne, mais bon, c'était pas une soirée tout seul, c'est pas grave. Hein. Enfin, pour moi, c'est pas grave.
Et donc, alors, le 18 mars, vous arrivez à Compostelle.
Voilà.
Alors, c'est arrivé à Compostelle. Au bout de 2 ans et demi, d'épisodes divers pour y arriver, comment ça se passe?
C'est à la fois... c'est bizarre. C'est bizarre parce que... On dit que ça peut pas être fini. On dit qu'on est content d'être arrivé, parce que, bon, les dernières étapes, j'ai accéléré parce que j'avais envie d'arriver. D'un autre côté, ça ne peut pas être fini. Cathédrale, moi, ça m'a, à l'extérieur, m'a un peu déçu, je n'ai pas trop aimé, mais par contre, l'intérieur, j'ai trouvé ça extraordinaire. En plus, on n'était pas nombreux, on était 7, je crois que c'est 5 ou 7 pèlerins arrivés ce jour-là.
Ah, oui, c'était alors, votre nom a été... Non, ce n'est pas le nom.
C'est le nom de la ville, tout le monde. Mais c'est vrai que quand... prêtre à cité Poitiers, c'est pour les larmes à l'œil, mais presque. Quoi. C'est vraiment, ça vous retourne. Quoi. Parce que c'est vrai que c'est pour vous. Là. Il y a pas...
Et donc la cathédrale n'était pas remplie de pèlerins, puisqu'il y en avait que 7, mais il y avait peut-être d'autres...
Ah, mais la cathédrale était remplie aussi. Alors ça, c'est aussi un choc. C'est de retrouver la foule. Parce qu'au bout de 3 semaines, quand vous arrivez, que vous avez été soit tout seul, soit avec que 3 ou 4 personnes maximum... Et vous rencontrez personne. Là, vous vous retrouvez dans la foule. La cathédrale était...
Parce que même dans les 100 derniers kilomètres, il n'y avait, pas de foule.
Non.
Puisqu'on dit que beaucoup d'Espagnols viennent pour faire les 100 derniers kilomètres, mais là, c'était trop tôt en saison.
Tôt en saison, et donc il y avait pratiquement personne. Bon, on était 7 à être enregistrés ce jour-là, donc c'était vraiment...
Alors, vous voilà arrivés à Compostelle. Donc pour ce pèlerinage par épisode, et donc qui a duré sur 2 ans et demi. Alors, si j'ai bien compris, vous n'en êtes pas resté là. C'est-à-dire que ça, c'était votre premier chemin par épisode.
C'était le premier chemin, oui.
Et si j'ai bien compris, vous êtes reparti sur le chemin.
Ah ben, je suis reparti la même année, d'ailleurs. Je suis reparti toujours par épisode, et là, je suis reparti. J'ai parti de chez moi, là. Alors là, c'est encore une autre impression, de fermer sa porte et de se dire qu'on part. Je ne me souviens plus des détails, mais je suis donc parti de Poitiers pour faire le chemin de Tours, en passant par Saintes et compagnie.
Ah, d'accord. Donc là, vous êtes parti de Poitiers. Alors, à quelle période? C'était toujours à l'automne aussi?
C'était en novembre.
En novembre. Donc là, au fond, vous êtes abonné tôt le printemps et à l'automne.
Voilà, oui. Voilà. Bon, j'ai fait quelques essais dans l'été, mais souvent la chaleur me rebute un peu. Et maintenant, le monde aussi. Donc,
En partant de Poitiers, vous êtes allé jusqu'où cette fois-ci?
Alors, je ne me souviens plus, enfin, je n'ai pas le détail en tête, mais j'étais jusque Sainte. Ouais. Puis après, j'ai fait Sainte. J'ai dû faire l'été suivant, puisque je l'ai fait sur 99 et 2000. Et j'ai fait Sainte jusque. Roncevaux, puisque je suis remonté à Roncevaux.
Pour passer à nouveau la montagne.
Voilà. Ouais.
Donc au fond, si je comprends bien, depuis 97, quasiment, en tout cas entre 97 et 2000, deux fois par an, vous prenez le bâton de pèlerin. Donc vous êtes toujours sur un épisode du chemin.
Pratiquement, je crois que depuis 1997, il y a juste une année en 2006 où je n'ai pas fait un tronçon d'un des chemins. Hein, puisque après, j'ai fait le chemin de Vézelay jusqu'au Roncevaux, pareil, et après le chemin d'Arles. Jusque Pointe-la-Reina.
Qu'est-ce qui vous amène à vouloir toujours repartir sur les chemins et sur d'autres chemins?
C'est une bonne question, ça. Je crois que c'est l'attirance sur ce chemin-là. Et pourquoi sur le chemin de Saint-Jacques, d'ailleurs? Parce que oui. j'ai pas trop essayé sur d'autres chemins. Je crois qu'il y a... Encore une fois, il y a l'histoire, tous les monuments, tous les cadres sur lesquels on se retrouve. Quand on traverse, je ne sais pas moi, l'Aubrac, on a vraiment moi, j'ai vraiment ressenti l'impression de fouler les pas de millions de pèlerins. Il y a les rencontres aussi. Il y a les rencontres qu'on peut faire.
Alors précisément, est-ce que vous ne pourriez pas m'évoquer quelques rencontres dont vous vous souvenez encore qui vous ont marqué?
J'ai évoqué tout à l'heure les gens qui m'avaient donné à manger le premier soir, mais j'ai d'autres souvenirs d'arriver à Saint-Côme-d'Olt dans le Lot complètement trempé et avec des pèlerins qui avaient fait du feu dans la cheminée du refuge qui m'ont fait une place, qui m'ont fait une boisson chaude. Vous arrivez plus, enfin vraiment mort, trempé jusque... Oh, c'est là, on vous accueille. Ça vous fait chaud au cœur. C'est des rencontres, c'est le même type de rencontre à Astorga, où vous arrivez par la nuit noire, enfin, au refuge. Bon, et puis là, c'est pareil, vous n'en pouvez plus. Vous dites, demain, je repars. Et vous arrivez, il y avait cinq ou six pèlerins espagnols qui étaient là, qui est en train de faire la cuisine, et puis qui m'ont ouvert les bras, qui m'ont dit « Allez, viens, tu manges avec nous bon, !» J'ai juste eu le temps de prendre la douche, et on s'est retrouvés à table, on a passé une soirée. Bon, j'ai été chercher une bouteille de vin, parce que ça allait bien, et on s'est retrouvés, on a passé une soirée extraordinaire. Bon, c'est tout ce genre de choses. Des gens que, il y en a que j'ai revus, il y en a que j'ai jamais revus. Donc, oui. ce partage sans arrière-pensée, sans souci de retour, sans... Je crois que c'est ça qu'on recherche.
Enfin, c'est ça que vous recherchez.
Enfin, que moi, je recherche. Voici plus certains passages, comment dire, des moments émouvants. J'ai parlé de la messe à Roncevaux, la messe à Saint-Jacques. Bon, c'est ces points-là. Puis des chemins, des passages. Bon, la traversée dans les montagnes d'Asturie. Sur le chemin primitif, là que j'ai fait l'an dernier. Bon, oui. Où là, on a des endroits où on trouve des hameaux où il n'y a pas de route, il y a juste une personne qui habite, mais on sent la présence du chemin. Enfin,
on sent là aussi que des pèlerins, depuis 1000 ans, ils sont passés
par là.
C'est vrai que là, quand on retrouve en haut de la montagne les restes d'un refuge, on a vraiment l'impression d'y être, voilà. Enfin de participer à ces grands mouvements. Oui. Et alors, est-ce que dans les rencontres, par exemple, est-ce qu'il y a des gens que vous voyez encore, avec qui vous avez des relations, ou au contraire, ça n'a été à chaque fois qu'un moment important, mais qui n'a pas...
Alors j'ai Bon, il y a un certain nombre avec qui on a correspondu un petit peu, mais je n'ai pas gardé vraiment de relations, des échanges de photos, etc. Mais effectivement, je n'ai pas gardé de relations avec les gens que j'ai rencontrés comme ça. Pourquoi souvent? Parce qu'il y a quand même le barrage de la langue, il y a beaucoup d'espagnol. Donc c'est vrai que c'est pas... je parle pas espagnol. Bon, puis il y a des gens ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est des gens dont j'ai retrouvé les traces. Je me souviens d'un couple de Bordelais que j'avais rencontré une fois, et sur un an après, sur le Livre d'Or en Espagne, j'ai retrouvé leurs traces.
Alors je reviendrai peut-être sur le chemin, puisque vous avez fait le chemin du Puy, vous avez fait le chemin la Voie de Tours, vous êtes marché sur le chemin de la Camino française, vous avez fait marché sur la Voie d'Arles, vous avez marché sur le Camino del Norte, et j'en oublie peut-être.
Le chemin Saint-Adrien aussi.
Saint-Adrien. Alors, est-ce que... est-ce qu'il y a un chemin qui, pour vous, est plus... Enfin, a des résonances plus fortes que d'autres?
Oh bah, Claire, c'est certainement parce que j'ai commencé par là, celui-là, la voie de Tours, c'est, la voie du Puy, pardon. Ah oui. C'est celle qui m'a marqué le plus.
Oui, parce que c'était le premier.
Voilà, je pense que c'est ça. Puis c'est celle, au moins au départ, dans toute la Margerie des Laubrac, celle qui a le plus fort caractère. Ce que j'ai retrouvé un peu dans l'Asturie, dans la montagne d'Asturie, où on a un côté rustique. Et oui. Je crois que c'est ce côté-là aussi m'a attiré.
Dans le Camino del Norte, à un moment donné, vous avez
pris
le Primitivo. Et donc là, vous avez retrouvé, au fond...
Un peu ce caractère brut.
Ce caractère, c'est ça. Voilà. Moins peut-être de... peu de monde.
Un peu de monde, puis des villes, enfin des villages, l'architecture, puis les restes du chemin, quoi.
Et vous êtes arrivé à Compostelle de combien de fois à pied, alors, finalement?
Deux fois. Deux fois, j'ai deux compostes.
Et la deuxième fois, c'était quand, alors?
C'était au mois d'avril.
De cette année?
De 2009.
De 2009. Ouais. Donc, du chemin du Camino del Norte.
Voilà. Voilà. Et j'ai continué jusqu'au Cap Finistère, pour voir un peu.
Alors, parlons peut-être un petit peu de ce Cap Finistère, parce qu'on a une minute, là. Donc, c'est la première fois que vous êtes allé au Cap Finistère à pied.
Oui.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce morceau de chemin de 90 km?
Ça permet de ne pas s'arrêter à Saint-Jacques, de continuer, de respirer et de reprendre son souffle avant de repartir. Mais autrement, c'est... Je suis peut-être dur un peu là, mais un peu plus commercial, quoi.
Ah d'accord, c'est ce que vous avez ressenti.
Mais bon, c'est peut-être une impression, parce que pour moi, le chemin était fini, quoi.
Je comprends, oui.
Mais ça permettrait de ne pas le finir, justement, directement.
Alors... donc là, il va falloir qu'on arrête bientôt. On va peut-être plutôt parler de vos rêves maintenant, parce que d'une certaine façon, enfin, de ce que vous avez envie de faire, parce que vous avez donc mis vos pieds dans la plupart des chemins de France. Alors, est-ce que vous avez des envies? Quels vont être vos chemins en 2010, 2011, enfin, voilà.
Je sais pas. Enfin, si, j'ai des idées. Mon souhait, c'est que dès que je pourrai avoir le temps, donc je serai libéré en termes de temps, c'est de repartir de chez moi pour aller jusqu'à Saint-Jacques en faisant d'une seule traite.
Ah oui, donc ça, c'est vraiment le rêve.
Voilà.
Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pu faire que par épisode.
Bon, ce qui a ses avantages, le faire sur 2 mois, et en passant, je pense que je repasserai par le chemin du Nord, le chemin de la côte, et que je poursuivrai le plus longtemps possible au bord de la côte.
Au bord de la côte, pour arriver à Compostelle.
Voilà.
Oui. Donc, donc on ne va pas refaire l'histoire, puisque je crois que c'est important de vous écouter sur le fait que vous ayez marché par épisode, parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Mais si vous aviez quand même des choses à refaire, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment?
D'abord, j'éviterais les parcours d'une semaine, qui pour moi sont trop courts.
Donc c'est ça qu'il faudrait... Oui.
Voilà, autrement, pour le reste, non.
Et est-ce qu'il y a des étapes qui ont été trop longues, des choses comme ça,
Il y a des étapes qui ont été trop longues, mais c'est moi qui l'ai voulu. Je veux dire que...
Oui, mais c'est ça que vous ne recommenceriez pas, là, peut-être. Enfin, là, c'est peut-être la nécessité qui faisait que...
Il y a la nécessité, et puis l'envie. Bon, ça m'est arrivé sur des fins de tronçon, de sauter des étapes, donc de faire 40 km, un truc comme ça m'est arrivé, pas souvent, mais bon, parce que j'en avais envie, j'étais pas obligé, hein, j'avais toujours le temps de faire, mais je sais pas, comme le cheval qui sent l'écurie, il y a des moments quand on a envie de continuer, puis on a envie d'arriver, donc...
C'est vrai que quand on arrive, on a déjà aussi 10 km derrière soi, donc on a
l'entraînement. Bien sûr, de toute manière, il faut commencer. Là, par contre, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait commencer par des petites étapes. Et les quelques fois où j'ai commencé par des étapes de 30 km, j'ai eu du mal à récupérer. Oui. Donc maintenant, j'essaie de faire 15-20 km les premiers jours.
Voilà une bonne leçon sur laquelle on va terminer. Merci Joël. Et à la semaine prochaine sur Radio Accor pour une autre émission sur les chemins de Compostelle.
Prenons le chemin tous les matins.